Bonjour Aiden Foster Carter. D'abord, quelle a été la politique anti-Covid des autorités nord-coréennes? A-t-on une idée de ce qu'ils ont mis en place depuis le début de la pandémie?
Dès la fin du mois de janvier 2020, ils ont fermé les frontières. Et vous savez qu'en temps normal, la Corée du Nord est déjà très isolée. La seule frontière terrestre qui fonctionne, c'est celle qui relie le territoire nord-coréen à la Chine. Ils l'ont condamnée et ils n'ont laissé personne entrer ou sortir du pays, y compris par exemple leurs diplomates, leurs propres ambassadeurs qui voulaient rentrer chez eux. Ils ont aussi coupé la circulation des marchandises, si bien que le commerce s'est effondré. Aujourd'hui, l'activité commerciale nord-coréenne représente à peine 10% de ce qu'elle valait avant le Covid-19. Ils ont pris des mesures draconiennes pour chasser le virus à tout prix, mais on a su très vite que ça n'avait jamais marché et qu'il y a eu des foyers d'infection à plusieurs endroits. Évidemment, ça n'a jamais été confirmé par les autorités et encore moins diffusé dans les médias nord-coréens.
Qu'est-ce que l'on sait du système médical en Corée du Nord, du savoir-faire de la communauté médicale?
Le système de santé compte beaucoup de professionnels très consciencieux, mais il manque terriblement de moyens. L'accès à l'électricité pose problème partout, les hôpitaux n'ont pas de courant stable, on parle même de centres hospitaliers qui fonctionnent sans accès à l'eau courante. Si le strict nécessaire n'est déjà pas là, vous pensez bien qu'il n'est pas question d'unités de soins intensifs et de tout le matériel perfectionné dont on a besoin pour traiter les cas graves de Covid. Si l'on prend le problème sous un autre angle, il s'agit aussi d'une population malnutrie. 40% des Nord-Coréens ne mangent pas à leur faim, ce sont les chiffres de l'ONU. Souvenez-vous de la famine qui a ravagé le pays à la fin des années 1990 et qui a fait 500 000 morts. C'est pour cette raison que l'on parle de population vulnérable avec des facteurs de comorbidité comme la tuberculose qui est endémique en Corée du Nord. Le paysage dans sa globalité est plutôt inquiétant.
Vous diriez qu'ils ont commencé à communiquer à propos du Covid parce que la situation sanitaire que vous décrivez devenait intenable?
C'est tout à fait possible. Si vous vous apprêtez à demander de l'aide, il faut bien reconnaître que vous êtes touché par la maladie. Mais c'est le facteur interne le plus important. Le fait nouveau, c'est que le virus a dû atteindre Pyongyang. Ils avaient peut-être réussi à isoler la capitale jusqu'ici, mais l'énorme parade militaire du 25 avril, avec des unités qui sont venues de tout le pays, a dû faire exploser le nombre de contaminations. Et quand Pyongyang est atteinte, quand les élites nord-coréennes commencent à tomber malades, vous ne pouvez plus rester muet. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des chiffres, qui sont assez étonnants, mais au moins, ils ont commencé à tenir un registre public de l'épidémie.
Qu'est-ce qui vous semble curieux dans les chiffres qu'ils publient ?
Eh bien, il n'y a pas assez de morts. Aujourd'hui, la Corée du Nord admet que 2 millions de personnes ont de la fièvre, c'est le terme qu'ils emploient. Or, si on le rapporte à d'autres pays, le ratio entre le nombre de contaminations et le nombre de décès avancés par les Nord-Coréens est beaucoup trop bas. Quelque chose ne tourne pas rond. Et il y a sans doute beaucoup plus de morts que ce qu'ils veulent bien annoncer.
Merci beaucoup, Aiden Foster Carter.